C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, après la Crimée, Napoléon III est poussé à servir la cause italienne par une comtesse en service commandé. Pour d'autres Italiens, en revanche, il est à éliminer pour avoir trahi la même cause ou pour avoir violé la République. La campagne victorieuse de Crimée allait entraîner un désir de remodelage de l'Italie morcelé en d'innombrables royaumes ou provinces, certaines occupées par l'Autriche-Hongrie, voisinant avec des duchés, sans parler des états de l'Église. Napoléon III était au zénith de sa puissance, et les souverains d'Europe le consultaient sur les marches à suivre. Pour un soutien militaire aux ambitions italiennes, il fallait gagner l'appui de l'empereur des Français, et pour y parvenir, on va recourir à la belle Nicia, surnom que ses amants ont donné à Virginia Oldolny, comtesse de Castiglione. Le roi du Piémont, Victor Emmanuel, prépara la chose de façon diplomatique et grivoise car il était aussi obsédé par les jupons que l'empereur. Cavour, lui aussi, de façon plus subtile, prépara l'arrivée de la courtisane. Après une approche ratée faute d'avoir su faire preuve de répartie, Virginia se rattrapa lors de soirées mondaines où son décolleté, lors d'une révérence appuyée, ferra l'empereur. Suivirent des rencontres répétées, des causeries, une intimité se créait entre l'italienne et l'héro-ottomane. Il se trouva que dans le même temps, Eugénie accoucha laborieusement d'un garçon dans une atmosphère vaudevillesque où l'un de ses médecins fut pris d'un malaise, tandis que l'empereur très agité sanglotait 15 heures durant avant de se trouver mal à son tour, puis de se prendre les pieds dans un tapis lorsqu'on annonça la naissance. Puis lorsqu'on lui présenta son fils, il se rua dans les salons en embrassant tous ceux et celles se trouvant sur son chemin. Plomplon, mortifié de se voir écarté de la succession par la survenance de ce fils miraculeux, refusa de signer l'acte de naissance et galopa dans les couloirs du palais, poursuivi par une tripotée de princes et dignitaires, jusqu'au moment où, coincé, il signa en maugréant et en s'appliquant à décorer d'une grosse tache d'encre le registre. Virginia, se pensant libre de jouer l'allumeuse impénitente, à présent que la grossesse de Génie n'était plus un sujet de préoccupation pour l'empereur, multiplia les tenues provocantes, mais à son grand dam, ce dernier ne tentait même pas un geste déplacé. Il fallait donc sortir le grand jeu, et ce fut le cas lors d'une soirée au cours de laquelle la comtesse apparut après le départ de Génie, dans une tenue ultra suggestive, et l'effet escompté sur l'empereur ayant été amplement produit, Virginia se trouva bientôt conviée à une partie de campagne avec le dress code d'une robe montante. Elle s'y rendit, en respectant les préconisations, mais en arborant une robe transparente qui lui valut une invitation à faire le tour du lac dans la barque personnelle de Louis, un tour du lac qui se prolongea et eut pour résultat de les voir réapparaître présentant tous les signes des batifolages auxquels ils s'étaient adonnés. Ainsi débuta une liaison peu orthodoxe, car la belle italienne affolait les sens de l'empereur, mais gardait le contrôle puisqu'elle était en service commandé. Et envoyait tous les soirs un rapport chiffré à Cavour, et ce, au nez et à la barbe des services impériaux soupçonneux à son égard. À l'automne, elle fut conviée comme quasi-maîtresse officielle au Compiègne, ces semaines durant lesquelles l'empereur conviait à la cour tout ce qui comptait, en procédant par catégorie, la série diplomatique, la série militaire, etc. La vanité de la comtesse ne connut alors plus de limites, allant jusqu'à porter les mêmes coiffures que l'impératrice et exaspérant tout le monde par sa prétention. Napoléon, séduit par l'aventurière, se laissait petit à petit convaincre d'une nécessaire intervention en Italie et rejoignait en nocturne sa belle italienne dans l'hôtel particulier où elle résidait. Soudain, une nuit d'avril 1857, trois Italiens appartenant à un groupe de conspirateurs tentèrent de faire la peau de l'empereur qui sortait de chez sa maîtresse. Le projet d'assassinat était patronné par Ledru Rollin, exilé à Londres, qui, pris de panique, dénonça l'agent de liaison parisien, qui à son tour vendit ses hommes de main. La police arrêta un nommé Tibaldi, au domicile duquel on découvrit 14 pistolets de poche, un pistolet d'arçon, un pistolet revolver, des moules à balles, des boîtes de capsules et des poignards. On trouva également des lettres codées facilement déchiffrables où « guérir le malade » s'entendait assassiner l'empereur et où « Drew Rollin » n'était autre que Ledru Rollin. Il y eut deux condamnations à 15 ans et d'autres à la déportation, dont l'une prononcée contre Ledru Rollin, planqué à Londres. On soupçonna, sans preuve, la comtesse de Castiglione d'avoir trempé dans le projet et par précaution, elle s'éloigna le temps du procès puis revint parader à la cour jusqu'au jour où elle fut brutalement congédiée par son impérial amant pour cause de bavardage, ce qui était aux yeux de Louis un péché impardonnable. Virginia s'en retourna en Italie avec le sentiment d'avoir totalement échoué dans sa mission. Cavour mit cet échec sur le compte de l'influence d'Eugénie qui privilégiait ses relations avec l'Autriche et le Vatican et de plus tenait là une revanche sur une maîtresse trop envahissante. C'est alors qu'un nouvel attentat d'obédience italienne changea la donne de manière totalement inattendue. Toutefois, avant d'évoquer cette tentative d'assassinat, il convient de rappeler que Napoléon III avait, à de nombreuses reprises, été visé par des comploteurs. Malgré un empire voté par plus de 8 millions de suffrages et malgré une amnistie, ceux qui n'avaient pas choisi de rentrer et de renoncer à la violence s'étaient exilés la plupart du temps en Angleterre. À Londres, Comité révolutionnaire et La Révolution, Comité de Jersey dans l'île du même nom, en fait, dès l'avènement de la présidence de la République par le prince Louis, les tentatives s'enchaînèrent. Il y avait eu le complot de la Reine Blanche à Paris, qui vit découvrir un assortiment de machines infernales préparées pour un carnage. L'intervention de la police avant l'exécution du projet permit l'arrestation de 13 personnes puis de 19 autres. Parmi les conspirateurs, on comptait un ancien officier de marine et un docteur en médecine. Les peines prononcées ne dépassèrent pas 3 ans de prison. Puis ce fut à Marseille, où Louis était en déplacement, que fut ourdie une autre tentative, déjouée de justesse peu de temps avant que 4 bouches à feu et 250 canons de fusil soient prêts à cracher la mitraille. Un forgeron fut arrêté rue du Grand Chemin d'Aix, puis on mit la main sur une dizaine de comparses sur le territoire, tous membres de la Société des Invisibles. Avec l'Empire, même largement plébiscité, les tentatives se poursuivirent.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Sento nell'aria il profumo di te. Piccoli sogni vissuti con me. Ora lo so. Non voglio perderti. Quella dolcezza così senza età, la tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto te, per te vivrò. Che questo non finirà mai senza di te. Non voglio esistere. Con te avrò mille giorni di felicità.
senza di te.
Depuis l'étranger furent publiés des écrits ne faisant pas mystère des intentions des conspirateurs. Citoyens, la démocratie a dû s'imposer quelques mois d'attente et de souffrance avant de frapper le brigand qui souille notre pays afin de se réorganiser malgré la terreur bonapartiste. Soyez donc prêts à tout et à chaque instant. Tâchez de vous voir et de vous rassembler souvent par deux, par quatre, par six, par dix s'il est possible. Former des groupes et des centres qui communiquent entre eux de vive voix, conspirer enfin avec courage et prudence, car la persécution doit rendre ardent ce qu'elle voudrait anéantir. Quand la grande nouvelle vous arrivera, qu'elle vous trouve debout, sans vous surprendre, comme celle du 2 décembre, rappelez-vous que ce jour-là, vous avez attendu en vain un signal de la part des traîtres ou des lâches qui se disaient vos chefs. Ne soyez donc plus des moutons qu'on mène, soyez des hommes. Aussitôt que vous apprendrez que l'infâme Louis Bonaparte a reçu son juste châtiment, quel que soit le jour ou l'heure, partez de tous les points à la fois pour le rendez-vous convenu entre plusieurs groupes, et de là, marchez ensemble sur les cantons, les arrondissements et les préfectures, afin d'enfermer dans un cercle de fer et de plomb tous les vendus qui, en prêtant le serment, se sont rendus complices des crimes de leur maître. Purgez une bonne fois la France de tous les brigands qu'elle nourrit et qui la ronge. Depuis 4 ans, vous avez appris à les connaître. Lorsque luira le jour de la justice, que ni votre cœur ni votre bras ne faiblissent, car vos ennemis généreusement épargnés redeviendront bientôt vos persécuteurs et vos bourreaux. En punissant les pervers, le peuple devient le ministre de la justice de Dieu. N'oublions pas aussi que la France est chargée des malédictions de la démocratie européenne, qui attendait de notre initiative son signal de délivrance. Malgré nos faiblesses et nos défaillances, les nations lèvent encore vers nous leurs mains enchaînées et leurs yeux, où brille un dernier rayon d'espoir. Montrons-nous dignes de la sublime mission de progrès et d'avenir que le monde entier semble nous avoir confiée. Ouvrons au peuple le chemin de la République universelle par la révolution démocratique et sociale de la France. Octobre 1852, signé le Comité révolutionnaire. Les auteurs, du moins ceux qui furent attrapés, prirent entre 6 mois et 2 années de prison. Un peu plus tard, l'un des auteurs qui avait échappé aux arrestations récidiva. Se fit prendre avec d'autres complices. Des peines de 5 ans de détention furent prononcées. En juin 1853, des conjurés se réunissent à plusieurs reprises et projettent un soulèvement. Ils ont dans l'idée d'assassiner l'empereur lorsque l'occasion se présentera de le surprendre sans escorte, de traîner son cadavre, de dresser des barricades, d'appeler les citoyens à la sédition et de la diriger avec l'appui de 26 canons fabriqués avec des tuyaux de gaz. Le 6 juin, les conjurés se postent, munis de pistolets et de poignards le long du trajet que l'empereur et l'impératrice doivent accomplir a priori sans escorte pour se rendre à une représentation au théâtre de l'Hippodrome. La tentative échoue malgré le nombre de participants sans que l'on ait la moindre explication. Et dès le surlendemain, d'autres projets voient le jour, mais ils sont tués dans l'œuf par de multiples arrestations. En juillet, nouvelle conspiration visant l'empereur lorsqu'il se rendra le 5 du mois à l'Opéra Comique. Un certain Meyrin, dit le Belge, s'engage à tirer 2 coups de pistolet sur Napoléon et des ouvriers se postent le long du trajet tandis que des étudiants assis en terrasse se préparent à intervenir à leur tour lorsque le forfait sera accompli. Mais en définitive, c'est la police qui intervient et arrête tout le monde. Parmi les conjurés, un nombre considérable de manuels, des cordonniers, des tailleurs, un menuisier, un boulanger, un bijoutier et puis un docteur en médecine et des étudiants en droit. 7 furent condamnés à la déportation, les autres à des peines de 3 à 10 années d'incarcération et 1 au bannissement. Cela ne mit pas fin aux tentatives d'assassinat. En septembre 1854, l'empereur devait assister aux fêtes de Tournai. Sur la voie de chemin de fer, à hauteur de Péranchy, 2 cantonniers découvrirent du fulminate de mercure dans une boîte en tôle, d'où partent 2 fils métalliques dévidés sur 35 mètres et relié à une pile de benzène. De quoi provoquer un superbe déraillement du train impérial. La police arrêta plusieurs individus impliqués qui furent condamnés à de la prison ou aux travaux forcés à perpétuité, voire pour certains acquittés. Les frères Jacquin, deux mécaniciens à l'origine du complot, ayant conçu la machine infernale, furent condamnés à mort par contumace car ils avaient fui en Belgique. Le 28 avril 1855, tandis que l'empereur, fraîchement revenu de Londres, remontait les Champs-Élysées, un certain Pianori fit feu, mais manqua sa cible et fut maîtrisé par le brigadier Alessandri. Les sénateurs comme les Anglais présents à Paris manifestèrent affection et solidarité avec Napoléon. Nous étions en pleine guerre de Crimée. Pianori, lui, a un pédigré conséquent. Assassinat, incendie, condamnation aux galères, évasion, passage par Londres, d'où proviennent des pistolets de luxe trouvés sur lui, ainsi qu'un couteau catalan, un rasoir et un pistolet de poche. L'homme était élégamment vêtu et de plus, portait dissimulé sur lui casquette et vêtements de rechange. Pianori fut guillotiné place de la Roquette le 14 mai à 5h du matin. Le 8 septembre 1855, c'est un illuminé de 22 ans, un nommé Bellemare, qui décharge ses pistolets par erreur sur une voiture de cour, transportant en fait trois dames d'honneur de l'impératrice ainsi qu'un chambella, la véritable berline impériale se présentant peu de temps après. Bellemare fut interné à Bicêtre. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous évoquerons lors de notre prochaine rencontre l'attentat d'Orsini aux conséquences paradoxales.